Alors, ouais. Et là, tu peux lui demander, vous pouvez commencer par, est-ce que tu peux te présenter?
Ouais, bien sûr.
Ok.
Donc là,
ça c'est pour, et pour commencer et pour arrêter.
Ok.
Du geste. Voilà.
Donc je vais te demander une chose, c'est de te présenter.
D'accord. Je commence?
Ouais.
D'accord. Je me présente professionnellement, mon âge, mon identité.
Ouais, voilà, raconte-moi un peu qui tu es.
D'accord. Donc,
décline ton identité.
Je décline mon identité, voilà, un peu comme dans un entretien professionnel. Donc, je m'appelle. J'ai 30 ans, français. Professionnellement parlant, bon, ça va être assez rapide. Ça va aller assez vite. Donc, actuellement, je suis intérimaire. Voilà. Ce qui signifie que je travaille de temps en temps. Je travaille entre 15 et 20 heures par semaine, un peu plus ou un peu moins, ça dépend. Je suis intéressé actuellement parce qu'en fait, je fais de la musique parallèlement à mon activité d'intérimaire. Et donc, être intérimaire me permet d'avoir un planning un peu plus souple. Voilà, donc planifier ma semaine en fonction de la musique, voilà. Donc là, pendant les... Les quelques mois qui viennent, encore 2-3 mois, je continue mon activité d'intérimaire et par la suite, je chercherai un vrai poste, voilà. Puis dans 2-3 mois, je devrais avoir terminé mon enregistrement. Voilà, je parle de musique, hein, bien entendu. Et donc, j'aurai un peu plus... j'aurai moins de temps à consacrer à la musique. Donc, voilà, la logique fait que... J'aurai plus de temps donc pour trouver un emploi à plein temps, 35 heures par semaine. Voilà, donc ça c'est pour présenter brièvement et de façon synthétique les choses.
Voilà. Et tu as fait des études?
J'ai fait un petit peu d'études, oui, effectivement. Donc le bac, hein, bien entendu, voilà, cursus normal, hein, primaire, secondaire. Après, donc j'ai validé un BTS. Voilà, donc plutôt avec plutôt commercial, voilà, plutôt spécialisé dans le commerce. Par la suite, j'ai commencé une fac art du spectacle, où je t'ai rencontré d'ailleurs, voilà, raison pour laquelle on n'était pas très studieux. Voilà, donc je crois que je suis resté... 2 ans, je sais plus. Enfin, en tout cas, on s'est bien amusé. Là, j'ai la bonne humeur. Alors, on a peu appris aussi l'histoire du cinéma, un petit peu, hein, je dis. J'ai plus appris finalement de mon côté, en étant autodidacte. Et j'avais, à la suite donc ces quelques mois passés à la fac de Nanterre, donc fac art du spectacle, où j'étais plutôt spécialisé dans le cinéma, j'avais passé. Donc un concours de la FEMIS, donc c'est une grande école qui prépare à différents métiers du cinéma, scénariste, réalisateur, producteur, oui. Décorateur. Donc moi j'avais postulé pour, j'ai passé le concours dans la catégorie scénariste et puis j'ai échoué, voilà. Donc un petit peu après cet échec, je suis parti à l'étranger où j'avais pendant 4-5 mois... pris des cours d'anglais, donc c'est une école en Australie qui donnait des cours de façon intensive, donc c'était 25 heures, 30 heures. Donc à la fin de ce cursus, on avait un examen, voilà.
Oui.
Que j'ai réussi. Je te l'ai pas dit d'ailleurs, mais voilà.
Félicitations.
Alors, je sais plus quel niveau j'ai, mais à l'époque, c'était pas trop mal, voilà. Et pour les études, c'est tout.
Voilà. Tu m'as dit avoir étudié à Nanterre.
Ouais.
Tu es parti faire un séjour linguistique en Australie.
Ouais.
Dans quel autre où as-tu vécu sinon tu as toujours été en région parisienne et donc une année en Australie ou tu as vécu ailleurs aussi?
Mais à part les vacances, les vacances, on peut en parler.
Tu peux parler de tes vacances, oui.
Ah oui.
Je t'en prie, vas-y. Ouais.
On fait beaucoup.
Où es-tu parti en vacances?
Je suis parti un peu en Europe, donc Espagne, Angleterre, bon avec toi Amsterdam, donc c'était la Hollande, l'Allemagne aussi, où j'ai une amie qui est en Allemagne. Puis quand j'étais plus jeune, en Italie, pour aller faire du ski. Sinon, on voyage donc hors Europe. Non, il y avait Chypre aussi, donc qui est en Europe. J'étais parti avec toi aussi. Voilà. On a passé de très beaux moments. C'était assez salace, d'ailleurs. Enfin bref, je ne vais pas entrer dans les détails. Restons courtois. J'étais parti aux États-Unis, j'étais parti en Thaïlande, en Inde, en Tunisie et en Australie. Bon, pour les meilleurs souvenirs, c'était la Thaïlande. Voilà, toujours avec toi. Voilà, donc meilleurs souvenirs Thaïlande et puis l'Australie aussi où je me suis bien amusé.
Donc au cours de tous tes voyages, tu as été confronté à différentes cultures.
Ouais.
Comment perçois-tu ces cultures par rapport à la culture française, par exemple?
En fait, partir à l'étranger, ça permet d'avoir un élément de comparaison avec la France. Alors effectivement, quand on est en France, on est assez critique sur pas mal d'éléments. Ça peut être aussi bien sur la politique, sur tout ce qui est environnement, sur ce qui est pollution, sur ce qui est conduite, sur ce qui est en fait tout ce qui a trait au civisme. Et quand on parle à l'étranger, eh bien on a cet élément de comparaison, comme je viens de dire, et on peut voir effectivement les différentes pas les différentes, mais les différences de culture. Et puis aussi, on s'aperçoit qu'on est dans un pays finalement de nantis. Alors le terme est peut-être un petit peu fort, mais bon, en fait, en Europe, on a l'un des systèmes, enfin, on a une démocratie. Donc la France, l'Angleterre, puis les États-Unis sont les plus vieilles démocraties. Et puis on a un système finalement assez abouti. Quand on part, par exemple, en Inde, on s'aperçoit qu'on peut laisser les gens crever comme ça par milliers sur les trottoirs, choses qui sont inconcevables en France ou en Angleterre. Pareil aussi pour ce qui est des moyens de transport. Donc en Europe, notamment en France, on a des routes qui sont parfaites, on a des limitations de vitesse. Lorsqu'on part dans d'autres pays, bon, les routes sont mal entretenues, bon, elles sont rarement goudronnées. Il n'y a pas vraiment de règles, donc c'est un petit peu la loi de la jungle, chacun fait ce qu'il veut. On s'aperçoit aussi qu'en France, on a un système de protection très très développé, système de remboursement aussi, lorsque l'on va aux urgences, tout ça est pris en compte par la sécurité sociale, donc on peut aussi rendre visite à son médecin en n'ayant que très peu de frais. Chose qui n'est pas concevable dans beaucoup de pays que j'ai pu visiter. Voilà, donc...
c'est une chose à laquelle tu as fait attention, ouais, au cours de tes voyages. Bah,
surtout sur le seuil de pauvreté, en fait. Hein. En France, on estime qu'il y a 6 ou 7 millions de pauvres. Effectivement, mais il n'y a aucune comparaison, finalement, avec le seuil de pauvreté qu'on peut trouver en Inde. Enfin, le seuil de pauvreté en Inde.
Il y a de très fortes inégalités sociales aussi en France.
Oui, tout à fait, oui. Mais de toute façon, les inégalités, elles existent dans n'importe quel pays entre. Bon, pour avoir un point de vue marxiste, voilà, donc. C'est-à-dire lutte des classes, voilà. Donc entre les prolétaires et la classe bourgeoise. Donc. En Europe, donc là, ça a été analysé par Karl Marx il y a déjà 150 ans, donc c'est pas nouveau, bien entendu. Cependant, les inégalités qu'on peut constater dans un pays comme la France et qu'on peut constater dans un pays comme l'Inde, je parle des pays que je connais un peu mieux, elles sont donc un point comparable finalement. Même si on peut retenir le terme d'inégalité à l'intérieur du pays. Effectivement, en France, quelqu'un de pauvre va vivre peut-être dans un mobil-home. Il vivra peut-être avec 600 ou 700 euros par mois. Donc, 600 ou 700 euros quand on est autonome en France, c'est très peu d'argent. En Inde, quelqu'un qui est très très pauvre, c'est quelqu'un qui. Enfin, ils sont des millions d'ailleurs. C'est quelqu'un qui vit dans un bidonville, chose qui n'existe pas en France. Donc des bidonvilles où ils n'ont pas l'eau courante, ils n'ont pas l'électricité, ils dorment à même le sol. Le taux de fécondité, effectivement, dans les pays comme l'Inde, sont beaucoup plus, plus élevés, puisqu'il y a moins d'alphabétisation en Inde qu'en France. Donc on sait que dans les pays alphabétisés, le taux de fécondité est moins important. Donc en Inde, le taux de fécondité est très très élevé, de 5 ou de 4. Enfin, il a baissé là, mais bon. Donc on a des familles très pauvres qui se retrouvent avec 3 ou 4 enfants à charge.
Tu évoquais les rapports de classe.
Ouais.
Maintenant, on pourrait parler, je serais intéressé, des rapports de sexe.
Ouais.
Une première question déjà, est-ce que tu vis avec quelqu'un? Est-ce que tu as un conjoint?
Oui, oui.
Oui, tu as une relation de couple?
Une relation de couple.
Est-ce que tu vis avec cette personne?
Je vis avec cette personne, Isabelle.
Ouais.
Ça fait 4 ans.
D'accord.
Voilà. Qu'on vit pas ensemble, mais qu'on est ensemble, voilà. On vit ensemble depuis 2 ans et demi, je crois. Ou 2 ans.
Depuis 2 ans. Ouais. Vous avez eu le temps, depuis 2 ans maintenant, de prendre quelques habitudes.
Ouais, ouais.
Et alors, qui de vous deux gère les tâches ménagères? Est-ce que vous avez une organisation traditionnelle de...
C'est plutôt, à première vue, je dirais que c'est assez anarchique. Donc après, si on rentre dans les détails, donc pour ce qui est des tâches ménagères, pour ce qui est de la vaisselle, voilà, donc ça peut être aussi bien moi qu'elle, pour ce qui est de la cuisine aussi. Bon, sauf qu'elle, elle cuisine un petit peu mieux que moi. Moi, en général, je fais chauffer des pâtes et voilà, ou je mets quelque chose au four. Donc, pour ce qui est cuisine et vaisselle, ça c'est bien réparti. Après, qu'est-ce qu'il reste à faire? Le ménage.
Je
préfère faire le ménage. Voilà. Je fais de temps en temps aussi, mais bon. Comment dire? Je pense qu'il y a encore.
Donc, c'est à part égale globalement ou pas?
Si tu l'interrogeais, elle, je pense qu'elle dirait qu'elle que c'est plutôt illégal et qu'elle a tendance à tout faire. Pour ce qui est du, voilà, je reviens dessus, vaisselle et cuisine, voilà, ça s'est bien réparti. Pour ce qui est du linge, c'est plutôt elle qui fait effectivement qui met le linge, voilà, et qui fait la lessive, etc. Donc c'est plutôt elle qui fait les machines à laver. Voilà, après pour ce qui est de le linge, ça peut être elle, ça peut être moi.
Mais
depuis ces derniers mois, c'est plutôt moi d'ailleurs qui le fait.
Le linge?
Oui, qui l'étend sur le sèche-linge. Ouais.
Et descendre les poubelles aussi, ça c'est...
Ça c'est une tâche qui incombe à l'homme. Voilà, j'ai fait un petit sondage autour de moi. C'est toujours l'homme qui descend les poubelles, c'est toujours l'homme aussi, enfin souvent l'homme qui conduit, c'est souvent l'homme aussi qui pousse le chariot, et la femme qui choisit les articles achetés dans l'hypermarché. Je sais pas pourquoi. C'est inscrit comme ça dans notre culture. Peut-être que les choses changeront, hein. Peut-être que dans 10 ans, c'est Isabelle qui descendra les poubelles et moi qui repassera. C'est plutôt elle qui repasse. Moi, j'ai pas besoin... avoir les affaires repassées, donc je fais pas attention. Si elle veut les repasser, qu'elle le fasse. Je m'empêche pas, mais bon. Enfin, je repasse pas, non.
Tu repasses pas?
Non. C'est moi aussi qui mets l'essence dans la voiture.
Donc tu fais ce qui te plaît quand même?
Bah non.
Tu te forces pas à.
Si, si. Si, si.
À t'occuper de tâches que tu pourrais trouver un peu.
Si, si, bah
fatigantes.
Si. Bah si, si. Si, si, tout fait. Bah la cuisine, enfin la vaisselle, enfin toutes les tâches ménagères. Ne me plaisent pas, donc je les fais quand même.
D'accord.
Voilà.
Ok. Et pourrais-tu à présent me dire s'il y a un événement qui dernièrement t'a marqué dans l'actualité ces derniers temps? Est-ce que tu as été marqué par un fait?
Marqué par un fait enfin pas marqué par un fait, mais pour en venir aux faits, plutôt politique. Donc, le Parti Socialiste, voilà, en pleine déroute. Voilà, donc, c'est un épisode assez malheureux pour le Parti Socialiste. Bon, je suis pas militant du PS, donc, voilà, je prends ça avec beaucoup de recul. Hein. Je suis assez observateur, voilà, sur, sur le PS et puis les heures assez tragiques qu'est en train de vivre le PS. Mais bon, j'ai un regard assez amusé sur le parti socialiste, enfin ce qu'il est devenu, voilà. Le parti socialiste qui est assez nostalgique de Mitterrand, qui était le dernier président français donc du parti socialiste. Puis là donc on a l'avènement de la droite, là qui reprend des fondamentaux de l'extrême droite, comme le nationalisme, l'immigration, la question de l'immigration, la question de la sécurité, et puis donc le PS qui évidemment d'accord, j'arrête.
Okay. Non, c'est très intéressant tout ce que tu me dis là. Mais si tu cites, si vous le voulez bien. Non, je vais te poser une dernière question quand même pour conclure cette interview. Est-ce que tu penses que tu es quelqu'un qui privilégie plutôt ta vie de famille, ta vie professionnelle? Tu m'as dit que tu faisais de l'intérim ou plutôt la musique? Quelle partie de ta musique?
C'est ce que
tu peux me donner une raison.
De toute façon, objective à chaque fois. À chaque fois, ouais, j'ai privilégié la musique. Donc, ouais, la musique. Mais enfin, la famille, de toute façon, ouais, je vis plus avec. Donc, c'est pas qu'elle passe après. Je la vois toutes les semaines. Donc, c'est pas après. Isabelle, après, c'est pas qu'elle passe après. Mais si, effectivement. Je dois rencontrer un musicien et je dois rentrer à 2h du matin. Bon, ce qui a déjà été fait, je le fais et puis Isabelle subit un petit peu. Subit aussi par ailleurs parce qu'il y a pas mal d'instruments dans le salon qui traînent, matériel de musique, voilà. C'est pas très très harmonieux dans la salle à manger.
D'accord.